cela, Père, pour te parler. Et je crois que tes enfants t'ont adressé leur prière, que tu les as entendus. Oh Dieu, tu es le Dieu qui exauce. Tu nous as appris à prier parce que tu voulais qu'on te contacte.
Amen.
Ce n'est pas pour que nous parlions seulement à des murs, mais nous parlons au Dieu Tout-Puissant et au Dieu vivant.
Amen.
Veuille venir en aide à tes enfants et exaucer leurs prières et que vraiment, oh Dieu, qu'ils puissent se réjouir de ton action au milieu de nous. Nous sommes heureux ce soir pour ce rassemblement, parce que tu nous as donné les moyens de venir, malgré la chaleur, malgré peut-être certaines difficultés. Et nous savons que des bien-aimés sont dans des programmes également ce soir, en ce jour, en vue du mariage que nous aurons ce vendredi, que nous voulons déjà te remettre sous ton contrôle. Que tu pourvoies en toutes choses, que tout se passe bien, que dans la cérémonie, dans leur vie pour les mariés, nous puissions vraiment refléter, montrer aux gens ce qui arrivera à la fin des temps, ce grand mariage que nous attendons, le mariage de l'agneau et de son épouse. Que tu inspires ta parole ce soir, que tu nous aides dans l'audition également, que tu nous pardonnes nos péchés, s'il te plaît, et que, Seigneur notre Dieu, nous puissions te rendre un culte qui te soit agréable. Nous te demandons de bien disposer nos cœurs désormais, afin que le cœur soit à l'adoration et à l'audition de ta parole, et aussi à la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen.
Amen.
Amen. Dieu vous bénisse. Nous lirons ce soir, sans essayer de vous retenir trop longtemps. De vendredi, ce n'est pas loin, vous savez. Vendredi, c'est tout près. Que nous soyons tous en forme et que demain, nous sachions nous préparer pour cela. Prions surtout pour les jeunes mariés qui ont pris cette décision.
Amen.
Que nous ne les oublions pas dans nos prières. Nous allons lire dans Galates chapitre 6. Un seul verset. Le 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Nous intitulerons « Ce qui est quelque chose », c'est-à-dire ce qui a de la valeur aux yeux divins. Amen. C'est ce qui a de la valeur quand Dieu nous regarde. L'apôtre nous dit, c'est d'être une nouvelle création ou créature. Oui, donc la question n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, ce n'est rien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre. Il dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. En fait, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création.
Amen.
Ou dans d'autres Bibles, c'est une nouvelle créature. Alors, ce qui est quelque chose, le reste, c'est rien. Et nous, si nous regardons dans Jean chapitre 3, le cas de Nicodème, il était docteur en Israël. Nicodème, comme tous les pharisiens, il se réunissait dans le Sanhédrin. Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 7. Nicodème, il connaissait certainement très bien toutes les doctrines qu'il fallait. Il connaissait toutes les pratiques juives qu'il fallait n'est-ce pas, pratiquer. Ben, mais Jésus ne lui parle pas de ça. Jésus ne lui pose pas la question, est-ce que tu es circoncis, est-ce que tu ne l'es pas. Il ne lui demande pas s'il se lave les mains avant de manger ou pas, parce que c'était une habitude juive. Hein. Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Bon, tout ça, Nicodème savait, mais Jésus lui fait comprendre que le royaume des cieux n'a rien à voir à faire avec ça. Amen. Ces choses, laver les mains, se circoncire, il y a un message derrière. Ce sont des types, ce sont des choses qui nous montrent ce que Dieu attend réellement de nous, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et pour ce qui est de la circoncision en fait c'était quoi? C'était un signe d'alliance. Ou c'est comme si vous apposiez votre signature en bas d'un contrat, ou d'un contrat d'alliance, c'est-à-dire que vous résolvez à vous entraider ou à marcher ensemble, selon une certaine manière. Dieu, pour lui, son alliance, il aidera Israël en toute chose, en tout point, quand il sera dans la détresse, quand il sera dans le besoin, et ainsi de suite. Dieu les aidera et Dieu impose comme signe d'alliance qu'ils ont conclu une alliance, il impose la circoncision. Ce qui signifie qu'en ce temps-là, si vous ne vous circoncisiez pas, vous étiez hors de l'alliance. Alors, ce qui est important, c'est de montrer que vous êtes quelqu'un de parole et que vous pouvez respecter une alliance. Aujourd'hui, d'abord, Dieu a conclu plusieurs alliances avec Noé, avec Abraham, avec David et ainsi de suite. Dieu a conclu des alliances avec eux et chaque fois, avec Samson, il y avait une alliance où Samson ne devait pas couper les cheveux. Mais maintenant, le problème de ne pas couper les cheveux, cela n'a rien à voir avec le salut. Amen. Ce n'est pas parce que vous vous rasez la tête que vous allez, nous en avons parlé dimanche passé, c'est pas parce que vous vous rasez la tête que vous irez en enfer. Aller au ciel, n'est-ce pas, dépend de la seule volonté de Dieu. Et Amen. Dieu décide si oui ou non cette personne, je lui fais grâce ou pas. C'est sa position à lui. C'est sa façon de faire les choses et l'apôtre nous dit il n'y a pas à discuter là-dessus. Et pour ce qui est de la circoncision, on va revenir à Nicodème. Pour ce qui est de la circoncision, Paul dit ceci aux Romains, parce que les Galates, d'où on vient de lire, on l'a vu il y a quelques semaines, les Galates ont vite sombré, ils commençaient à sombrer, petit à petit dans l'égalisme, alors que la bonne nouvelle de l'évangile leur était apportée. Hein? Ils commençaient à verser dans le légalisme, comme quoi, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne serez, selon le rite de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Mais non, qui vous a dit ça? Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre dit ceci, au verset 25. Et vous savez, la circoncision, quand vous lisez dans des livres d'histoire, elle se pratiquait déjà longtemps chez les Mésopotamiens, avant que ça n'arrive chez les Juifs. Mais ça, c'était un signe que Dieu leur a dit, c'est un signe d'alliance entre vous et moi. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Ça va?
Amen.
Donc, la circoncision. Si tu veux te circoncire, si tu tiens à te circoncire, tu dois mettre en pratique la loi. Et il dit aux Galates, d'ailleurs, c'est la loi tout entière. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Donc, tu as beau être circoncis, mais si tu transgresses la loi, tu n'es plus considéré comme quelqu'un de circoncis, tu es considéré comme un incirconcis. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Donc inversement, quelqu'un qui est incirconcis dans la chair, il observe les ordonnances de la loi divine, son incirconcision, elle est tenue pour circoncision. Comprenez ? Dieu, ce n'est pas tellement l'apparence. Alors, Dieu ne s'attache pas à l'apparence. Dieu, ah oui, il le dit au prophète, je crois que c'était Samuel, qui est parti oindre David, il dit, toi, puisque quand Samuel voit le grand frère de David, il dit, ça c'est loin de l'Éternel. Dieu dit, non, celui-là je l'ai rejeté. Il dit, toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et c'est à nos cœurs que Dieu regarde.
Amen.
Alors, l'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Tu as les deux. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Dites amen à ça. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et c'est Dieu qui décide. Donc, Nicodème, il était là. Tout docteur de la loi qu'il était, il connaissait ces choses, certainement, sur la circoncision et la circoncision. Et il s'attendait peut-être que Jésus lui parle de ça. Hein, il faut que tu aies une barbe, il ne faut pas raser les coins de ta barbe, il ne faut pas ceci ou ça. Non, le Seigneur le regarde, la première. Lui, il dit, nous savons que tu es venu de Dieu avec tous les signes que tu fais, parce que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'était pas avec lui. Le Seigneur, au lieu de lui dire bravo, il lui dit, il faut naître de nouveau. Oui ? Non, amen. Il faut naître de nouveau. Et ça, c'est ce qui est important aux yeux divins, aux yeux de Dieu. Alors, ce qui me concerne, je peux avoir une apparence tout à fait chrétienne, mais si je ne suis pas né de nouveau, ben, il le dit à Jean, il le dit dans Jean 3, il le dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu n'entreras pas. D'ailleurs, tu ne le comprendras même pas. On te prêchera comme tu veux, mais tu ne le comprendras pas. Hein? Donc, il dit ceci. Mais il y eut un homme, Jean 3, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah, et c'est là, toutes les questions commencent. Donc, et Jésus lui dit, « Tu es docteur en Israël et tu ne savais pas ça. » Tu ne savais pas que Dieu regarde au cœur. Tu ne savais pas que Dieu ne se préoccupe pas trop de ton apparence. Il se préoccupe de ce qu'il y a là, à l'intérieur. Dites amen à ça. Donc, aujourd'hui, dans le message, on se préoccupe beaucoup de l'apparence. D'ailleurs, nous-mêmes également, lorsque nous marchons en ville ou à l'extérieur, on juge les gens par l'apparence. Lorsqu'on voit une personne habillée, surtout chez les sœurs, les femmes, on voit une femme habillée décemment, très bien, on se dit, ça c'est certainement une sœur. Exactement comme Samuel, lorsqu'il voit Eliab, le grand frère de David, il dit, ça c'est vraiment loin de l'Éternel. Comment ? Par l'apparence. Il voit quelqu'un de costaud qui vient, il voit quelqu'un d'imposant qui vient, et Samuel, sachant que le peuple d'Israël aimait quelqu'un comme Saül, quelqu'un qui dépasse tout le monde d'une tête, et Eliab présentait plus ou moins comme Saül, il a dit, alors ça doit être lui qui va remplacer Saül. Dieu lui dit, celui-là, je le rejeté.
Amen.
Bon. Et comme Isaïe avait En tout cas, il avait cette grâce d'avoir des enfants bien imposants. Le deuxième n'était pas beaucoup moins imposant que le premier. Il arrive, hein, il dit alors c'est certainement celui-ci. Dieu lui dit, celui-là aussi j'ai rejeté. Et Samuel dit, bon, prenons le troisième. Et quand vous regardez bien, il n'y a pas que Samuel qui a fait ce choix, qui a fait le mauvais choix au départ. C'est le papa aussi, Isaïe. Isaïe, on lui dit, donne-nous tous tes, présente-moi tous tes enfants ici, parce que l'Éternel m'a envoyé pour en oindre un qui sera roi. Il néglige David et il prend les six autres, il les met là. Il dit, il s'est dit directement, ce n'est certainement pas David. David, c'était peut-être un peu la mouche dans le lait dans la maison, n'est-ce pas? David, c'était peut-être celui qui faisait les choses de manière maladroite ou que sais-je, je ne sais pas. Il était juste bon à garder les brebis. Hein? Mais Dieu dit, c'est celui-là que je veux.
Amen.
C'est un homme selon mon cœur. Oui. Non, les apparences, on doit se méfier. On voit quelqu'un venir, on voit une femme arriver, pas de bijoux, de longues jupes, pas ceci, avec des cheveux bien faits, bien arrangés. Ah, ça c'est une sœur. Qu'est-ce qui te dit que c'est une sœur? Amen. Dieu dit, il regarde au cœur, il dit, tout ça, ce n'est rien. Circoncis, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui fait que c'est rien, ça. Paul dit aux Galates. Donc, il importe peu de savoir ce que vous êtes, ce que vous étiez même avant. Ce n'est pas tellement ça le problème. Hein? Puisque aussi, beaucoup aujourd'hui, ils sont là, ils vous disent... Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Ah ben, comment est-ce que tu sais que Dieu t'a fait grâce? Eh ben, avant, je buvais, je m'enivrais, je faisais ceci, je faisais cela, je sortais. Mais maintenant, je ne fais plus ces choses-là. Et c'est ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de te sauver. Et si tu es sauvé, évidemment que tu ne boiras plus, tu ne t'enivreras plus. Évidemment que tu ne feras plus ces choses. Peut-être il y aura encore certaines choses que tu feras, mais tu restes malgré tout un enfant de Dieu que Dieu a sauvé. Dieu dit, si j'ai jugé bon de le sauver, oui. Que t'en semble?
Amen.
Quel est ton problème? C'est moi qui sauve, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui reprends la vie. Donc, Dieu est le seul souverain dans cette question-là.
Amen.
Nous n'avons aucune décision à prendre. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire que Jésus est mort pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir la foi. Paul dit, cette justice qui vient par la foi, c'est celle-là que je veux avoir. Nous allons le lire. D'abord, nous lirons dans Galates, chapitre 1. Regardez ce que Paul était. Ce n'était pas n'importe qui, Paul. Maintenant, qu'est-ce que vous étiez? Ça, c'est un peu, vous voyez, les plus belles photos qu'on avait prises à l'époque où on circulait encore dans le monde, hein, et on avait le plus beau costume ou le plus bel apparat qu'on pouvait avoir, la belle photo, n'est-ce pas, où on brillait de mille feux, on prend la photo, allez, paf, on l'affiche au salon. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, y a pas de souci à ça. Je n'ai rien contre ça. Finalement, après, quand quelqu'un vient me voir, tu vois comment j'étais avant? Et puis Dieu m'a fait grâce. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, on ne doit pas être fier de ce qu'on était avant.
Amen.
On doit être fier de ce qu'on est aujourd'hui,
amen.
De ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui.
Amen, amen, amen.
C'est de ça qu'on est fier. Pas ce que Dieu a fait avant. Tout ça, on laisse passer. Ce n'est rien, dit l'apôtre.
Amen.
Circoncis ou incirconcis. Dans Galates chapitre 1, Paul, lui, il dit ceci. Il dit au verset 13, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. J'étais premier de classe, moi. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais Dieu lui a enlevé tout ça dans le désert. 14 années passées dans le désert, va m'oublier tout ça. Dites amen à ça. Mais Paul, eh bien, il a... Ben, bien sûr, on oublie rarement ce qu'on était. Parfois avec fierté, on montre quand même la photo. Ces albums-là devraient disparaître.
Amen.
Amen. Parce que si un jour on vous a pris une photo, vous étiez en état très désavantageux. Ou je ne sais pas, on vous a pris une photo, vous avez été surpris. Par exemple, comme Bathsheba est parti se laver, si quelqu'un l'avait prise en photo, vous savez, Bathsheba n'allait pas prendre ses photos et l'afficher. Hein. Dites amen à ça.
Amen.
Ou bien, on vous a pris une photo, vous étiez en lambeau. Maintenant, vous avez bien réussi dans la vie et tout ça. Cette photo-là en lambeau, vous allez la cacher.
Oui, vous allez la cacher.
Yes. Vous allez la cacher. Oui. Ah. Paul dit, j'étais plus avancé que beaucoup. Mais tout ça, c'est rien. Les pratiques religieuses, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Hein? Est-ce que tu es croyant? Je suis catholique pratiquant. Ça n'a rien à voir.
Amen.
J'ai jamais entendu quelqu'un dire « je suis du message pratiquant ». Mais catholique pratiquant, oui. Musulman pratiquant, oui. Ça, j'ai déjà entendu. Protestant pratiquant, oui. Mais du message pratiquant, il n'y a pas. Dans le message, c'est quoi? Ce sont les longues jupes. Dans le message, c'est quoi? Ce sont les cheveux. Dans le message, c'est quoi? C'est le maquillage. Le message, c'est... Non, c'est pas ça le message. J'ai appris qu'il y a même une mode maintenant chez les femmes, n'est-ce pas? Lorsqu'elles vont chez le couturier, n'est-ce pas? Bon, donc, elles demandent à ce qu'on leur confectionne les blouses un peu comme les branhamistes. C'est venu à la mode. Donc, ce sont des gens qui finissent par s'habiller comme des branhamistes. Mais ils sont incirconcis.
Amen.
Ils sont incirconcis. Mais c'est juste que parce que bon, les branhamistes ont un col. Le col doit être col branhamiste. C'est-à-dire comme nos sœurs. Nous ne sommes pas des branhamistes. Hein, mais comme nos sœurs mettent des cols bien en ras ici, eh bien... C'est ça, à la mode, quand elles vont chez les couturières, demandent un col à la manière branhamiste. Ouais. Et ce sont des incirconcis qui demandent ça. Ce n'est pas l'habit qui fait. Eux-mêmes, ils le disent, l'habit ne fait pas le moine. Alors, celui qui a revêtu l'homme nouveau n'a plus à prendre en considération ces choses-là. N'a pas à prendre en considération la circoncision ou l'incirconcision ou ce qu'il était avant. Tout ça, c'est rien. Paul dit aux Philippiens, on connaît très bien ce passage, il dit tout ça qui était pour moi un gain avant, je considère cela comme de la boue. Ça fait Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées et comme une perte. Puisque, alors, c'est quoi ces choses? Lisons-les, on ne va pas les sauter. Au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Il dit, je suis bien placé. Il y en a qui le disent par orgueil. Hein. Je ne sais pas si Paul l'a dit par orgueil ou par humilité, je n'en sais rien. Mais il est en train de nous dire ici, vous savez, avant, je n'étais pas n'importe qui, hein. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Hein. Il dit, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, zèle, persécuteur de l'Église, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde, ces choses qui étaient comme des gains, eh bien, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est par la foi, telle que la foi nous est enseignée dans la Bible, que nous sommes de nouvelles créatures.
Amen.
Pourquoi ? Parce que Dieu nous promet,
amen, amen.
Il nous promet cela. Il nous promet un cœur nouveau. Il nous promet un esprit nouveau. Il nous promet son Saint-Esprit. Il nous promet tout cela. Et Nicodème n'avait en fait jamais compris Ézéchiel 36. Il n'avait pas compris que c'était une nouvelle création. Il n'avait pas compris que c'était une nouvelle naissance. Parce que parfois dans la Bible, la naissance est considérée comme une création. Mais la Bible, nous devons y croire telle qu'elle est révélée en notre temps. Nous ne devons pas croire en la Bible comme les gens du Moyen-Âge croyaient. Aujourd'hui, nous croyons en la Bible telle qu'elle nous est révélée en notre temps. Au temps du Moyen-Âge, ceux qui y ont cru, ils y ont cru de manière tout à fait biblique, parce que c'est Dieu qui révèle sa parole. Et bien sûr que ces gens-là, ils sont sauvés. Mais nous avons avancé. Nous avançons aujourd'hui à la lumière du temps du soir. Seigneur, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes aussi des disciples de Christ.
Amen.
Ça veut dire que nous apprenons de Christ. C'est par la foi. Et pour être disciples de Christ, nous en connaissons les conditions. Il y en a sept. N'est-ce pas ? Jésus les donne. Il faut aimer les uns les autres. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut porter sa croix et le suivre. Et ainsi de suite. Nous pouvons toujours en reparler une autre fois. Ça a déjà été prêché. Nous ne sommes pas des disciples de Branham, non. Nous ne sommes pas des disciples de Paul, non plus. Nous ne sommes pas des disciples de Moïse. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est de lui que nous apprenons. Alors, cet homme nouveau qui a de la valeur aux yeux de Dieu, cet homme nouveau, il est renouvelé, nous dit la Bible, il est renouvelé par la connaissance. La connaissance, donc l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, donc la connaissance de Dieu, il est renouvelé par ça. Quand vous apprenez à connaître Dieu, vous devenez une autre personne. Colossiens chapitre 3. Verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Frère François, mais c'est la loi ça. Oui, c'est la loi. Qui ici peut faire mourir ses membres ? Oui. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit au commencement, lors de la création, l'ancienne création, la première création, lorsque Dieu dit que la lumière soit, qu'est-ce que la lumière a fait pour être ? Rien du tout.
Amen.
Dieu a parlé.
Amen.
Dieu a parlé et cela s'est réalisé. Ici, au travers de son serviteur, Dieu parle par le Saint-Esprit. Et Dieu, qui peut faire mourir cela, il le fera. Recevez seulement la parole. C'est une parole créative. Le jour où on comprendra ça. C'est pour cela qu'on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vous engage pas à faire des efforts. Non, écoutez la parole. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. Et plus vous l'entendez, plus ça condamne, plus vous ne vous n'aimez pas, eh bien, plus Dieu vous change. Vous écoutez seulement la parole. Amen. Celui qui n'écoute pas la parole, oui. Celui qui n'écoute pas les prédications, oui. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Celui qui n'écoute pas les prédications, oui. Il ne changera jamais.
Amen.
Intérieurement, en tout cas. Extérieurement, il pourra se priver de beaucoup de choses. Mais en fait, il se prive. Il vous voit manger quelque chose que lui, il sait que c'est interdit, mais il en a envie. Vous savez, il mange presque avec vous. Hein. Avec les yeux, il regarde, il dit, ah, celui-là, il a de la chance, il peut en manger. Bon, maintenant, je parle de manger, faire certaines choses aussi. Ah, écoute, il y a telle histoire qui est programmée tel jour, est-ce que tu m'accompagnes? En tout cas, non, je suis maintenant chrétien, je ne peux pas t'accompagner. Alors après, quand il s'en va, vous dites, ah, il a vraiment de la chance, lui, il peut y aller. Oui, vous venez un dimanche à l'assemblée pour écouter la parole, hein, fiston, au lieu de venir joyeux comme tu viens de nous faire chanter, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vous voyez l'autre, votre voisin qui se lève, qui lave sa voiture, qui prend son vélo, qui va faire son petit tour du dimanche, il n'a vraiment rien à faire. Oh, vous avez eu difficile à vous lever, et puis vous le regardez, vous l'enviez. Ah, eux ils n'ont pas allé à l'assemblée. Mais il faut aller à l'assemblée comme David. David dit, je suis dans la joie. Alléluia. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel.
Amen.
Maintenant, vous commencez à envier la personne. Ah, au moins, ils peuvent oui. dormir comme ils veulent. Ils peuvent se réveiller comme ils veulent, quand ils veulent. Mais moi, je dois aller à l'assemblée. Et encore, frère François va nous retenir pendant des heures et des heures. Hein. Déjà, quand, à peine installé, que vous commencez déjà à spéculer sur l'heure de votre sortie. Ouais. Ah. Dans Colossiens chapitre 3, dont nous lisions, faites donc mourir. Ouais. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
Amen.
C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Hein, c'est à peu près, ça ressemble à Éphésiens 2. Hein, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité. Dites, Seigneur, je n'en veux plus. Dites-le lui. Hein, vous pouvez arriver au niveau de Paul où il dit, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Il hait. Dieu voit qu'il hait ça. C'est pourquoi Dieu va le changer. Il dit, Dieu voit qu'il veut faire le bien. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Dieu voit ça. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, donc à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce que le vieil homme, c'était un menteur. Et ayant revêtu l'homme nouveau, il se renouvelle comment l'homme ? Il se renouvelle dans la connaissance. Et il se renouvelle selon l'image de celui qu'il a créé. Vous devenez à l'image, n'est-ce pas, de celui qui vous a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Celui qui est une nouvelle créature est heureux et reconnaissant d'être membre de la famille divine, d'être de la race de Dieu, d'être un frère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Alléluia.
Amen. Circoncis ou incirconcis, c'est une apparence de foi. Ah, celui-là, il a l'apparence de quelqu'un qui a cru au message. Celui-là, il a l'apparence de quelqu'un qui est catholique. Il a l'apparence d'être une bonne sœur. Elle a l'apparence d'être une bonne sœur. Elle a l'apparence d'être un prêtre. Là, vous savez, les prêtres, ils ont toujours, n'est-ce pas, une certaine attitude apparente qu'ils aiment prendre. Hein, avec des gestes amples, un peu... pour eux, c'est ça la sainteté. Ouais. Dominus vobiscum, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, ah, il est saint. Non, c'est pas ça la sainteté. C'est pas ça la sainteté. Les Pierre, les apôtres du Seigneur, ils étaient... C'était des gens bizarres au vu des pharisiens. On ne les comprenait pas. Dieu ne leur dit pas, le Seigneur ne leur dit pas, il ne leur prêche pas la nouvelle naissance. Mais le Seigneur les change. Il dit même à Pierre, vers la fin, dans Luc 22, je crois, ou 23, il dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Il avait déjà commencé un travail en lui. Hein? Et dans Marc 7, ils apparaissaient, j'en ai parlé, mais je ne sais pas si je l'ai lu. Dans Marc 7, ils apparaissaient comme des gens, des drôles d'oiseaux, les disciples. Oui. Donc, oui, on a lu. Donc, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Donc, c'est là où ils étaient là à dire, ils ne sont pas de Dieu. Les pharisiens disaient, ils ne sont pas de Dieu. C'est alors que Dieu nous a dit qu'il faut nous laver les mains avant de manger. Eux, il ne faut pas que vos mains soient impures. Eh bien, eux, ils venaient, ils mangeaient les mains impures. Ouais. Et ils suivaient le Seigneur. Les pharisiens disent, non, ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Et pourtant, c'était de Dieu.
Amen.
Comme vous, peut-être, dans certains moments, certains endroits, ces gens ont dit, non, les vrais chrétiens n'étaient pas comme ça. C'est de l'ange. Mais non, vous savez, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Matthieu, qui était au poste de péage, Matthieu a suivi le Seigneur, Matthieu a changé. Il a écrit un évangile. Oui. Ce sont des gens qui ont complètement changé. Et qui les a changés? Le Seigneur. À force de le suivre, ils ont été changés. Ils ont tellement été bien changés à l'image du Fils de Dieu que quand on a arrêté le Seigneur, Pierre, il a cru qu'il était au milieu des gens qui lui ressemblaient en se cachant. Donc, il a cru qu'en se mêlant à la foule, on n'allait pas le repérer. Il s'est mis là, il écoutait ce qu'on allait dire. Bien sûr, au-dedans de lui, il souffrait. Mais sa manière d'agir, sa manière d'intervenir parfois dans certaines choses, peut-être que quelqu'un a lancé, mais ce monsieur pourtant, il n'a rien fait. C'est certainement que Pierre a peut-être lâché un amen. Amen. Et puis on le regarde. Toi, tu étais avec lui. Tu parles. Il dit non, même en niant, il n'y est pas comme les autres.
Ouais.
Vous voyez, Pierre a été repéré. Et comment il a fait? Lui, il croyait qu'il était toujours le vieux Pierre là. Non, il avait déjà complètement changé. Pas tout à fait complètement, mais il n'en était pas encore à la fin de son changement. Mais il était déjà avancé. Vous et moi, c'est pareil.
Oui.
Les changements que Dieu a opérés en nous, c'est après une certaine marche qu'on a remarqué, tiens, il y a certaines choses qui ne m'attirent plus. Il y a ça qui ne m'attire plus. Mais il y a encore ça où je regarde encore. Et puis évidemment, vous avez passé à l'Assemblée, si un évangéliste passe, il va vous dire c'est du diable. Ben maintenant, à vous dire, donc je fais ça, c'est du diable, je ne dois plus le faire. Mais il y a d'autres choses où il va aussi dire c'est du diable, mais vous avez constaté, tiens, je ne le fais plus. Ce n'est pas vous, hein, c'est Dieu qui a enlevé ça. Oui, c'est Dieu qui a enlevé ça. Donc, c'est circoncis ou incirconcis, c'est très attaché, n'est-ce pas, à la pratique de certaines règles de doctrine. Comme quoi, retournons dans Colossiens. Paul, à qui Dieu a fait grâce, il en savait un bout de ça. Colossiens chapitre 2. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Le « on » là, c'est qui? Ce ne sont pas les païens. Hein. Le « on » là qui impose, ce sont les conducteurs religieux. Qui imposaient ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle. Dites amen à ça. C'est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, ce qui est quelque chose. Oui. Ça ne compte pas du tout. Ne touche pas, hein, ne goûte pas, ne prends pas, hein, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça n'a pas de valeur. Ça ne compte pas du tout. C'est rien. Ce qui est quelque chose, ça a de la valeur aux yeux de Dieu.
Amen.
Beaucoup de valeur. Et c'est d'être une nouvelle créature. Pas une créature pervertie. Non. Une nouvelle créature qui a un esprit nouveau, qui a un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui aime, qui est réceptif à la parole de Dieu. En qui Dieu a répandu son esprit. C'est ça, la nouvelle créature. Et Dieu, pour cela, ça a tellement de valeur aux yeux de Dieu que lorsqu'on lit dans la première création, nous allons voir, Dieu termine en bénissant la création.
Amen.
Genèse chapitre 1er. Ça a plu à Dieu, amen. Sa création lui a plu. Si l'ancienne création lui a plu, la nouvelle création doit lui plaire aussi.
Oui.
Genèse chapitre 1er. Verset, on peut dire verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Amen.
Ça, c'est l'ancienne création. Dieu, l'homme était dans une position de roi sur la terre. Vous savez, ça, c'est moi qui dis, mais j'y ai pensé, je vais toujours vous le dire. De toute façon, je peux vous montrer cela dans les Écritures, dans Isaïe 66. Un lion, tel qu'il a été créé, donc quand on dit vieil homme, si on dit un vieux lion, tel qu'il a été créé, il a été créé herbivore. Il mangeait de l'herbe. Mais quand le péché est entré, le lion a tourné le dos à l'herbe et il s'est mis à manger la viande. Ça va? Mais dans la nouvelle terre où Dieu nous conduit, le lion et l'agneau, ils vont paître ensemble.
Alléluia.
Donc un lion, entre guillemets, né de nouveau, c'est un herbivore. Yes. Il mange de l'herbe. Dans les années 66, on nous dit que le lion et l'agneau, ils paîtront ensemble. Il ne mangera plus. Le seul qui ne naîtra pas de nouveau, c'est le serpent, le reptile. Il continuera à manger la poussière. Amen. Voilà. Dieu les bénit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Amen.
Dieu les bénit.
Ouais.
Et Dieu, donc, Dieu les a bénis.
Oui.
Tellement ça lui a plu.
Oui.
L'homme était réellement à son image.
Oui.
Avec des attributs masculins et des attributs féminins en lui.
Oui.
Dieu va séparer ces attributs-là plus tard.
Oui.
N'est-ce pas? Alors, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parce que Dieu a aussi des attributs maternels.
Ouais.
Quand il nous est dit qu'il est El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire que c'est le Dieu à la mamelle, qui a des mamelles, qui donne du lait, n'est-ce pas, à ses bébés, à ses créatures. Donc, il était vraiment à l'image de Dieu. Quand Dieu a regardé, ça lui a plu. Dieu les a bénis. Donc il bénit l'homme et la femme, il est béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Maintenant, aujourd'hui encore, à la nouvelle création, s'il y a eu une bénédiction à l'ancienne, il doit y en avoir une dans la nouvelle.
Amen.
Ça va? On revient dans Galates 6. Et ça a tellement de valeur que ça plaît à Dieu. Et Dieu bénit. Il bénit. On revient au verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création ou créature.
Amen.
Regardez le verset suivant. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Dieu les bénit.
Amen.
Il leur donne la paix.
Amen.
Il leur fait miséricorde.
Oui.
Et sur Israël, sur l'Israël de Dieu.
Amen.
Dieu, il est tellement content de voir un homme né de nouveau, une femme née de nouveau. Dieu est tellement content que Dieu le bénit, la bénit, lui donne la paix et lui fait miséricorde.
Amen.
C'est une règle à suivre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre. Il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Quelle règle? Être une nouvelle créature. C'est ça qui est quelque chose aux yeux de Dieu. C'est une règle à suivre.
Amen.
Et c'est le souhait que l'on peut nous adresser, nous tous, et adresser à tous ceux qui ont reçu le message aujourd'hui.
Amen.
Les longues jupes, les longs cheveux, ou que sais-je, ou les pantalons mis à la bonne taille, ou des trucs, toutes ces choses. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu.
Amen.
Ce qui a de la valeur de Dieu, c'est que vous êtes une nouvelle créature.
Alléluia.
Et si vous êtes une nouvelle créature,
Amen.
Il ne vous sera jamais enseigné comment vous devez vous habiller.
Amen.
Si vous êtes, parce que Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, c'est la Bible qui le dit dans Hébreux. Hébreux nous dit, quand, dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son frère. Hébreux 8. Verset 8, Hébreux 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
Amen.
Non comme l'alliance que je traitais avec leur père,
oui,
le jour où je les saisis par la main,
oui,
pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est vrai que ce sera prêché par quelqu'un, si Dieu l'inspire, mais Dieu l'inspirera à prêcher juste ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Le reste, Dieu fera le reste. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Quand je suis arrivé à Kinshasa, le message que j'ai entendu le mercredi après mon arrivée, eh ben, c'était justement ne retranchez rien, n'ajoutez rien. J'ai beaucoup aimé ce message. Il nous a promenés dans la Bible depuis le début là-bas jusqu'à la fin. À la fin, dans Apocalypse, à la fin, il nous aimons. Ne retranchez rien, n'ajoutez rien.
Amen.
Que Dieu bénisse ce frère, j'ai oublié son nom, mais je crois que la sœur connaît. Oui. Car ils n'ont pas persévéré, donc non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ouais, si vous ne persévérez pas dans l'alliance avec Dieu, Dieu ne va pas se soucier de vous. Vous savez, la circoncision était un signe d'alliance. Et à cause de cette alliance, Dieu a pris sur lui le fait de prendre le peuple d'Israël et de le conduire conformément à l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, de le conduire vers une terre promise où coule le lait et le miel. Dieu ne le faisait que conformément à l'alliance qu'il avait conclue avec Israël, avec Abraham. Or, le peuple ne méritait pas. Ce qui subissait en Égypte, il le méritait. D'ailleurs, ça se voit quand ils sont arrivés dans le désert, comment ils commençaient à se plaindre. Et pendant qu'ils y allaient, Dieu, avec cette alliance, il dit à Moïse qu'ils doivent se faire circoncire et tout ça, il va les conduire. À cause de l'alliance, même avec Samson, le fait que le rasoir ne passait pas sur la tête, Samson, il pouvait faire des bêtises. Il faisait des bêtises, il allait chez les Philistins et tout, mais tant que les cheveux étaient là, Dieu était lié à sa parole. Que Samson fasse des bêtises ou pas, tant que les cheveux étaient là, la grosse bêtise que Samson a faite, c'est d'enlever le signe de l'alliance. Alors, Dieu n'était plus tenu à son alliance. Alors, Moïse, on lui parle de la circoncision. Moïse, le voilà, qui prend le peuple. Paf, il va avec le peuple vers la terre promise. Dans sa propre maison, il oublie de circoncire l'enfant. Moïse sortait de l'alliance avec ça. Alors, Moïse n'avait plus rien à faire là-dedans. Puisque c'était le peuple de l'alliance que Dieu devait conduire. Dieu l'a attaqué la nuit pour le faire mourir. Et on a posé la question au frère Branham. Dieu allait vraiment tuer Moïse? Frère Branham dit oui. Ouais. Moïse, l'alliance, une alliance, c'est une alliance. Et quand, vous savez, aujourd'hui, le signe de l'alliance qu'il a faite avec nous, on va le lire, c'est son Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous savez, il est scellé. Hein. Celui que Dieu a baptisé du Saint-Esprit, il est scellé. Et ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit s'occupera de son aspect extérieur. Mais il commence d'abord par l'intérieur. C'est l'intérieur qui va d'abord commencer à travailler.
Amen.
Et cet intérieur, lorsqu'il va travailler, ça va finir par se refléter à l'extérieur.
Amen.
Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen. C'est Dieu qui enseigne. Il peut vous enseigner au travers de quelqu'un, mais il faut que ça soit la parole de Dieu, pas la parole du frère François. Oui, moi je n'ai pas à vous apporter ma parole. C'est-à-dire, j'ai ma manière de voir concernant mes enfants, concernant ma maison, j'ai ma manière de voir. Je trouve que une maison bien conduite, une maison bien, elle doit être conduite comme ça. Ça, c'est moi. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Je n'ai pas à venir vous faire conduire votre maison comme moi je le fais. Conduisez la maison comme Dieu vous demande de le faire. Dieu nous demande de faire quoi ? Dieu nous demande d'enseigner ces choses à nos enfants.
Amen.
Ça va ? Et puis vous avez certainement certaines valeurs sur lesquelles vous tenez. Enseignez-les à vos enfants. Tant que ce ne sont pas des valeurs antibibliques, enseignez-les. Mais ne les imposez pas aux autres. Rien ne dit que ce qui marche chez vous marchera dans la maison d'à côté. Oui. Rien ne dit que ce qui ne marche pas dans la maison d'à côté ne marchera pas chez vous. Non. C'est Dieu est un Dieu de diversité.
Ouais.
Dieu ne nous a pas fait des clones. Des clones, ce sont des individus tout à fait semblables en tout point. Même caractère, même ceci, même cela. C'est pire que des jumeaux, les clones. J'ai déjà observé des arbres clonés. Quand vous les regardez, vous voyez les embranchements quasiment au même endroit. Vous voyez, donc ils se ressemblent en tout point, des clones.
Ouais.
Donc, plus personne n'enseignera son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
Ouais. »
parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, nous qui avons reçu le message, tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre cette règle. Et c'est tellement important que le Seigneur a commencé par là avec Jean, avec Nicodème. Il a commencé par là. Nous connaissons peut-être beaucoup de choses. Nicodème connaissait beaucoup de choses. Il a enseigné beaucoup de choses. Mais le Seigneur l'a ramené un peu, tout à fait au début. Écoute, il faut naître de nouveau. Et quand Dieu dit « il faut », c'est important. Maintenant, comment je vais faire ? Je dois rentrer dans le sein de ma mère pour que je naisse, moi qui suis déjà vieux. Mais non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Dieu dit « il faut naître de nouveau ». Ça veut dire que c'est une question qui ne le concerne que lui. Personne ne peut naître de nouveau de lui-même. Nicodème n'a pas à rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître de nouveau. D'ailleurs, s'il rentre dans le ventre de sa mère, pour autant que ce soit possible, il va renaître exactement le même Nicodème. Or, ce n'est pas ce Nicodème-là qu'il faut. Il faut un nouveau Nicodème. Dites « Amen » à ça.
Amen.
Gloire à Dieu. C'est donc ceux à qui la parole de Dieu a été révélée en cette génération, eh bien, ils savent qu'ils vont suivre cette règle-là, la règle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est très importante. Mais, tout comme toute naissance, n'est-ce pas, Jacob dit à Rachel, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas nous qui nous donnons nous-mêmes comme enfants à Dieu, non. À ceux qui ont reçu la parole de Dieu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole, ne la négligez pas, ne la négligeons pas, recevons-la de tout notre cœur et la parole fera son travail en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Nous voulons non pas être reconnus par les jupes longues, mais nous voulons être reconnus de ce que nous sommes en tant que nouvelles créatures. Prions le Seigneur. Et c'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui est quelque chose. Tout le reste, ça n'a pas de valeur réelle, dit la Bible. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, c'est vrai que tout cela dépend de toi. et le salut auquel nous aspirons ne vient que de toi. Et c'est toi qui le donnes selon ta volonté. C'est toi qui le donnes par ta grâce. Et lorsque nous le recevons, nous reconnaissons que c'est une grâce que tu nous fais. Sois béni, sois loué. Nous te demanderons, Père, pendant que nous sommes là en prière ce soir, nous voulons te rappeler cette promesse que tu as faite, de cette promesse d'un esprit nouveau, d'un cœur nouveau. Oh, non pas un cœur d'où viennent les mauvaises pensées, les adultères et toutes ces choses, mais un cœur nouveau qui aime à méditer ta parole. Un cœur qui brûle, qui brûle lorsque ta parole est annoncée. Lorsque Christ lui-même annonce cette parole, comme les bien-aimés sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque le Seigneur leur parlait en chemin, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Oh, ce cœur-là, nous voulons l'avoir. Non pas un cœur qui s'ennuie lorsque la parole est apportée. Non pas un cœur qui rouspète lorsque la parole est apportée, mais un cœur qui est vraiment joyeux de recevoir cette parole, de la recevoir avec foi. Fasse que les oiseaux du ciel ne la mangent pas, oh Dieu, mais qu'elles puissent vraiment trouver place et ainsi germer et pousser des racines et demeurer. Que cette foi reste en nous, dans les combats, dans les difficultés, que nous puissions dire comme Paul, si jamais nous devons arriver à la fin du combat, que nous pouvons dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Oh, mais j'ai gardé la foi. Sois béni, Père. Merci pour ce jour. Merci pour nous avoir réunis. Maintenant, nous allons rentrer. Nous avons un mariage ce vendredi. Oh, que nous te remettons encore, ô Père, sous ton contrôle. Que vraiment, cela puisse être une joie parmi nous. Que cela ne soit pas juste quelque chose de fatigant, mais que cela soit une joie que nous voulons partager avec la famille, avec les deux familles qui célèbrent cela. Et que c'est le plus important, que Jésus-Christ soit vraiment représenté, que Jésus-Christ soit apporté, oh Dieu, et que ce mariage nous rappelle comme le mariage de l'agneau et de son épouse. Merci encore pour ce jour. Merci, Père, d'avoir conduit nos pas jusqu'à cet endroit. Et puissions-nous avoir, oh Dieu, par ton action, avoir être ce quelque chose que tu dis, oh Dieu. Mais tout cela dépend de toi. Et c'est, car tu as dit que le vent souffle, il va là où nous en entendons le bruit, mais nous ne savons pas d'où il vient, d'où il va. Mais ce que nous savons, c'est que toute naissance, toute création vient de toi. Que tu sois béni. Et merci, Père, pour cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Et nous te demandons aussi de nous raccompagner dans nos maisons alors que nous allons rentrer. Nous remettons notre chemin de retour entre tes mains, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.